les parts actualités.
Les Paractualités, édition du 13 septembre 2017, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. En manchette aujourd'hui, un combat pour la dignité de sa fille handicapée, quand les bibliothèques deviennent des ressources pour les proches aidants, et aussi identification d'un gène impliqué dans les lésions cérébrales du prématuré. Aussi en entrevue, Louis Bourassa, directeur du programme des vainqueurs, les amputés de guerre du Canada, qui vient nous parler d'une décision importante du tribunal administratif du Québec qui crée un précédent pour les personnes amputées du Québec. Aussi Joseph G. Yulene. Alors, il va me dire exactement comment prononcer son nom de famille, président du conseil d'administration du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, le ROCEF. Un combat pour la dignité de sa fille handicapée, c'est un texte de Camille B. Vincent. Combien de fois dans une journée va-t-on à la toilette ailleurs que chez nous? Demande Stéphanie Leclerc pour sa fille Sarah. Les cas sont exceptionnels, faute d'endroit pour changer sa couche, la fillette a 8 ans. La mère de famille le dit elle-même, il s'agit d'un sujet délicat, tabou. Mais il n'en est pas moins fondamental, ajoute-t-elle. Come on, c'est de la dignité, c'est un minimum. Qui commencerait à compter le nombre de jus, de café, de verres d'eau qu'il prend dans une journée, s'insurge Stéphanie. Sa fille est atteinte du syndrome de Phelan-McDermid, une maladie rare qui provoque un retard global de développement moteur et intellectuel. Concrètement, l'impact est un grave trouble de langage et un comportement de type autistique. Quant à la propreté, je ne sais pas trop quand on va pouvoir acquérir ça, si elle l'acquiert, mentionne Stéphanie. Lorsque Sarah était bébé, le problème n'en était pas un. Mais c'était avant qu'elle ne devienne trop grande et trop lourde pour les tables allongées standards. En raison de la maladie de sa fille, Stéphanie fréquentait beaucoup l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, où un grand comptoir est installé à même la toilette. On n'avait pas vraiment le temps de fréquenter d'autres espaces publics, alors je ne m'étais pas vraiment posé la question. Je pensais qu'il y allait y avoir ce genre d'installation ailleurs, mais il n'y en a pas, déplore-t-elle. Même l'hôpital, le CHUL, où nous allons fréquemment pour des rendez-vous de suivi, ne possède pas de salle où je puisse l'installer sur une surface assez grande et sécuritaire, offrant aussi un accès à l'eau courante et une toilette. Résultat, les déplacements en famille, parce que Stéphanie est maman d'une autre fillette également, sont réduits au strict minimum. On essaie de partir après avoir changé sa couche et on fait des sorties courtes, tout pour éviter d'avoir à faire un changement de couche à l'extérieur de la maison. Heureusement, Sarah est encore assez petite pour qu'on puisse la changer dans l'auto, alors c'est comme ça qu'on s'organise. Devant ce problème qui semble vouloir aller en s'empirant, Stéphanie Leclerc a tenté de prendre les choses en main. Elle a récemment lancé une pétition visant à instaurer un standard québécois de salle de changement pour les personnes handicapées. Elle a également présenté une requête au protecteur du citoyen qui l'a envoyée à la Commission des droits de la personne. Stéphanie Leclerc n'en revient toujours pas de la réponse obtenue. La Commission des droits de la personne n'intervient pas en matière d'accessibilité universelle. C'est politique, madame. Il faudrait faire demander à ce que les lois soient changées, rapporte au Soleil la maman indignée. On est isolé, on a déjà les bras pleins. On est tout le temps face à une machine administrative incroyablement bien rodée qui a toujours plein de belles excuses pour ne pas répondre à nos demandes, dit-elle. J'en veux à personne, mais c'est la monstruosité de la patente. C'est incroyable toutes les démarches qu'on fait et qui ne donnent pas de résultats. On se fait dire que ça ne concerne pas une masse. Pourtant, le problème concerne et complique la vie de plusieurs milliers de Québécois. Il y a des gens en chaise roulante qui ont des emplois, mais qui ont besoin d'assistance pour se déplacer jusqu'à la toilette. Ou encore les gens qui ont des stomies et qui ont besoin d'un lavabo pour changer ou vider leur sac, énumère Stéphanie. Au nom de toutes ces personnes, elle réclame qu'un standard d'accessibilité soit établi et inclus dans le Code du bâtiment de Québec. Du Québec. À noter que depuis le 1er janvier 2015, le Code du bâtiment ontarien exige que toutes les salles de toilettes universelles soient dotées d'une table allongée de taille adulte, Comme ultime modèle à suivre, elle cite toutefois la norme Changing Places, compte adopter plus de 1000 établissements au Royaume-Uni. Pour être accrédité, Changing Places, la salle de bain doit être assez grande pour que l'on puisse se déplacer en fauteuil roulant et doit être munie d'une table allongée ajustable de taille adulte, d'un treuil, d'une toilette et d'un accès à l'eau courante. En studio, Louis Bourassa, directeur du programme des vainqueurs, les amputés de guerre du Canada, qui est ici donc. Bonjour, bonjour. Monsieur Bourassa. Vous êtes ici pour nous parler d'un cas d'une personne amputée qui a fait preuve de beaucoup de patience et surtout d'une décision importante du tribunal administratif du Québec qui crée un précédent pour les personnes amputées du Québec. Mais avant de nous parler de cette décision, pourriez-vous nous rappeler un peu le contexte lié à cette décision?
Alors, le contexte commence, la bataille commence il y a 4 ans. La personne a été amputée avant la suite d'un accident d'automobile et se voit prescrire par un médecin un type de prothèse. Et donc, l'agent payeur, la Société d'assurance automobile du Québec, refuse de défrayer ce type de prothèse-là. Les explications de la SAC ne sont pas vraiment claires, mais refuse de payer ce type de genou-là précisément pour avoir un genou qui ne sera pas avec un muni d'un microprocesseur. Pour des raisons de sécurité qu'on va peut-être avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard, il était important d'avoir ce type de genou-là, mais la SAC refusait complètement. Mm-hmm. Alors, ce type-là est venu nous rencontrer et nous, on a un programme qui est l'équité pour les personnes amputées et on a décidé de prendre ce cas-là, si vous voulez, l'amener à bout de bras et aller au bout de tout le processus judiciaire, c'est-à-dire au tribunal administratif. Ce fut long, mais on a gagné cette bataille.
Ah, bravo! Alors, mais quelle a été justement l'implication, peut-être un peu plus de façon détaillée, de l'Association des amputés de guerre dans ce dossier-là?
Alors, la première chose qu'on a dû faire, qu'on croyait qu'il était bien de faire, c'était bien documenter la demande du professionnel de santé. Alors, il y a eu des visites chez différents types de professionnels de la santé pour être sûr que le dossier soit bien monté, que le genou qui était important pour cette personne amputée-là soit pas quelque chose de perçu comme futile ou en tout cas en filigrane, trop dispendieux ou des choses comme ça.
C'est un caprice.
Quasiment.
Ouais.
Alors, c'était pas ça. Nous, on a décidé simplement de bien documenter ça et de présenter ça. Alors, on est allé une première fois contre le refus de la SAC. On a essuyé un revers. On est allé une deuxième fois contre le refus de la SAC en bonifiant notre document. On a essuyé un refus. La SAC est allée, voulait entrer en médiation avec nous. Ce qu'il nous offrait avait aucun... Ça ne correspondait même pas à ce que le professionnel de la santé voulait que la personne amputée. Alors, on s'est ramassé au tribunal administratif. Et là, c'est un peu complexe parce qu'il faut présenter. Alors, ce que le juge explique dans son jugement, c'est qu'il explique le rôle de la SAC. La SAC doit faire le mieux qu'elle peut. Là, je ne suis pas juriste, là, je vous traduis ça dans mes mots. Ouais. Elle doit faire le mieux qu'elle peut, tout en son pouvoir, pour que la personne redevienne le plus fonctionnelle possible. Et là, nous, les professionnels de la santé ont démontré qu'il serait beaucoup plus viable pour la personne amputée d'avoir un genou avec un microprocesseur.
Pourquoi?
Bien, voyez-vous, c'est pour les raisons de sécurité. Ces genoux-là sont auto-bloquants, si je me permets un petit terme, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de genou avec microprocesseur, on s'imagine amputé. Moi, je suis amputé en bas du genou, mais amputé en haut du genou. Si on est pour tomber rapidement, les genoux, le genou à peinture de porte, si on veut, va plier et la personne va tomber. C'est un fait reconnu que les personnes amputées en haut du genou tombent beaucoup plus souvent que les personnes non amputées.
Alors, c'est ce genre de genou-là que vous vouliez... Pour cette personne-là. Est-ce que vous la nommez, cette personne-là?
Oui, c'est M. Lauzon.
Oui.
Et puis, elle a imaginé que c'était très étonnant de voir tout le temps ce refus-là pour des raisons de sécurité. Puis on se dit, écoutons, c'est-tu pour des raisons financières? Parce que dans le fond, si ce type-là a une prothèse qui ne sera pas sécuritaire, à ce moment-là, il va y avoir chute. Là, on va remplacer la hanche, on va remplacer l'autre genou. Ça va coûter beaucoup plus cher que le genou avec microprocesseur. Oui. Puis après ça, on s'est demandé, c'est-tu parce que c'est de la haute... C'est, selon la vision du public, peut-être, de la haute technologie. Mais là, ça fait plus de 15-20 ans que ces genoux-là existent.
C'est un manque de connaissances, on dirait. Je ne sais pas.
J'en ai conclu que la personne qui est sur le terrain, qui prescrit, le prothésiste certifié, lorsqu'il prescrit quelque chose, la personne qui est derrière son bureau administratif quelque part voit ça comme « Ah, c'est trop cher, on refuse » ou quelque chose comme ça. Alors, ce que le
pour
juge...
Pour voir plus loin de son nez.
Voilà. Mm-hmm. Et aussi, c'est quand on entend le genou microprocesseur, on est pensé à...
James Bond,
Star Wars, des choses comme ça. Alors, vraiment, c'est pas ça. Et aussi...
On n'est pas dans la science-fiction, là. Ça existe. Il y a plusieurs personnes amputées qui possèdent ce genou-là.
Oui, et je vous dirais que c'est la norme un peu partout à travers d'autres pays. C'est la norme, ces genoux microprocesseurs-là.
Alors, je comprends pas pourquoi ça a été si long, cette bataille.
Ben, c'est 4 ans, hein, puis c'est beaucoup de temps.
Vous n'avez pas lâché le morceau.
On n'a pas lâché le morceau. Puis des fois, je me pose comme ça, comme question, tout l'argent que la SAC a investi pour aller contre la décision d'un professionnel de la santé, juste ce montant-là là, aurait permis à défrayer les microprocesseurs à toutes les personnes qui en ont besoin. Parce que ce n'est pas toutes les personnes amputées en haut du genou qui ont besoin d'un genou microprocesseur. C'est vraiment un professionnel de la santé.
Qui va décider si la personne... a besoin d'un genou avec microprocesseur ou pas?
C'est ça.
Ouais.
Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où un professionnel de la santé de la même province, certifié prothésiste, dit que c'est ce type de prothèse-là que les personnes devraient avoir, de quel droit on peut commencer à argumenter ça?
Mm-hmm.
Alors, ce jugement-là va faire évidemment précédent, c'est-à-dire que tous les gens qui se voient refuser, dans ce cas-ci, un genou de type que le prothésiste a prescrit, bien, peut-être que ce jugement-là fait un précédent. Là. La SAC, quand on lit entre les lignes du jugement,
ça
on
va faire réfléchir.
Oui, c'est ça. Avant que la SAC dise non, là, elle va devoir s'armer de nouveaux arguments. Parce que c'est très, très clair qu'il aurait dû défrayer ça à partir du début.
Bon, alors ça a bien fini. Ça a été long, mais ça s'est bien terminé.
Oui, ça a bien terminé, mais quelque part, en tant que citoyen, il y a quelque chose de frustrant là-dedans parce que la SAC ne... Tu sais, quelque part, toute l'énergie, tous les sous qui ont été dépensés pour aller contre un fait évident comme ça.
Oui, on se dit tout ça pour ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Puis quelque part, on a tous payé pour ça, là, vous, moi, et on se dit, quelque part, on perd l'essence même de venir en aide. Et puis souvent, je me dis, on ne choisit pas d'être amputé, hein, c'est quelque chose qui arrive ça par accident. Puis je me dis, si vraiment, là, il y avait une malversion ou une idée là, croche derrière la personne amputée d'avoir une prothèse de plus haute technologie, ce qui n'est vraiment pas le cas, je me dis... On est-tu en train de chercher une puce ou un pouls alors qu'il n'y en a même pas? On est en train de prêter mauvaise intention à une personne qui souffre d'une amputation.
Alors, j'espère que vous serez entendu par les personnes qui doivent peut-être faire un examen de conscience. Un grand merci à Louis Bourassa, directeur du programme des vainqueurs, les amputés de guerre du Canada. Vous portez bien votre nom, hein, les vainqueurs. Vous avez vaincu.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci.
Les bibliothèques deviennent des ressources pour les proches aidants, c'est dans l'action d'Autré.com. Le réseau biblio du Centre du Québec de la Naudière et de la Mauricie annonçait le 11 septembre la disponibilité d'un nouveau service d'information à l'intention des proches aidants, et ce, dans 36 bibliothèques en milieu rural et semi-urbain de la Naudière. Le programme Biblio aidant offre aux usagers des bibliothèques 15 cahiers thématiques afin de renseigner les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés au quotidien. Chacun des cahiers contient une liste d'organismes, des sites web pertinents et des suggestions de lecture, le tout analysé et validé par des bibliothécaires diplômés. Parmi les thématiques, on retrouve les aînés et le vieillissement, le cancer, la déficience intellectuelle, la maladie d'Alzheimer, la santé mentale, les accidents cérébrovasculaires, les troubles du spectre de l'autisme, etc. D'abord, instauré en 2007 dans les bibliothèques de Charlemagne, l'Assomption et Repentigny, le programme Biblio aidant est maintenant disponible dans l'ensemble du Québec grâce à la cession des droits d'auteur. Des livres sur les divers sujets traités dans les cahiers thématiques seront aussi disponibles dans les bibliothèques. Ils porteront le sceau Biblio aidant, ce qui atteste du sérieux de l'ouvrage. Un pas vers le monde pour B. Témia de Gilbert Leduc dans la presse.ca. B. Témia parvient à attirer l'attention de la multinationale taïwanaise Wistron Corporation qui déplie les billets verts pour devenir un actionnaire majeur de la plus jeune pousse technologique de Québec spécialisée dans la fabrication d'appareils d'assistance à la mobilité, notamment du dermosquelette commercialisé au Canada sous le nom de Kygo. Kyogo, voilà. Il s'agit de la deuxième prise de choix réalisée par B. Témia, qui, au printemps dernier, annonçait un partenariat avec Lockheed Martin, un géant mondial de la sécurité et de l'aérospatiale, pour l'aider à mettre au monde une nouvelle génération d'exosquelettes, un appareil porté par-dessus l'uniforme protégeant ses utilisateurs des blessures au dos et aux genoux causées par la surcharge d'un équipement qu'ils doivent transporter sur une longue distance pour les secteurs militaires et industriel. C'est clairement le coup d'envoi de la seconde phase de croissance de B. Témia, a affirmé au Soleil le président et chef de la direction de l'entreprise de Québec, Stéphane Bédard, une croissance qui se fera à l'échelle mondiale. Le produit vedette de B. Témia, Kyogo, est vendu actuellement exclusivement au Canada. La compagnie a déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration afin d'obtenir le feu vert pour commercialiser Kyogo dans le sens de l'expression anglaise « keep on going » aux États-Unis. Ce produit est un support mécanisé, motorisé d'assistance à la démarche qui se porte directement sur les jambes. Il est alimenté par une batterie possédant une autonomie de 24 heures. Ce n'est pas un robot marcheur, mais bien un appareil d'assistance à la démarche. Les mouvements du Kyogo sont initiés par l'utilisateur. Un autre invité en studio, on est choyé aujourd'hui, il s'appelle Joseph, je vous laisse nommer votre nom de famille.
Giuliani.
Giuliani, c'est tellement beau. Alors bonjour, vous êtes président du conseil d'administration du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, le ROSEF. Dites-nous, Joseph, ça rime avec ROSEF, ça n'a rien à voir j'imagine, mais non. Qu'est-ce que c'est exactement le ROSEF? Vous existez depuis combien de temps?
Bon, le ROSEF, c'est un regroupement de services d'aide en emploi. On est des services d'aide en emploi financés par Emploi Québec, spécifiques pour les personnes handicapées. Le regroupement comme tel existe depuis 2004, mais la grande, grande majorité de nos membres, on est 22 membres au travail de la province du Québec, existe depuis plus de 30 ans.
Donc, les membres, qui sont-ils exactement?
Les membres, c'est des services d'aide en emploi. Donc, c'est des organismes comme la mienne qui ont été partis parce qu'il y a besoin dans le milieu. Mm-hmm. On voyait que les personnes handicapées, il n'y avait pas vraiment d'accès au marché du travail. Les services n'étaient pas adaptés. Donc, la création terrain d'organismes comme le nôtre. Et on est là pour répondre aux besoins du monde. Et en fin de compte, c'est l'emploi là, qu'on fait là.
Et quelle est justement la situation du marché de l'emploi en 2017 pour les personnes en situation de handicap? Est-ce que ça va mieux, ça va moins bien, d'après vous?
Ça dépend comment on le voit. Mm-hmm. Quand on regarde les statistiques, les taux d'emploi, l'écart entre les personnes avec incapacité et ceux qui sont sans incapacité, ne change pas vraiment. L'écart est quand même d'à peu près 30 % qui est énorme. Vous direz
quand
que
vous dites l'écart, 30 % par rapport à quelqu'un
entre
qui...
Le taux d'emploi des personnes avec incapacité est 30 % de moins que le taux d'emploi des personnes sans incapacité. Mm-hmm. Il y a eu des stratégies en place pour essayer de changer ça, mais selon les statistiques qu'on voit, il n'y a pas vraiment eu un grand changement. Qu'est-ce qui est particulier, c'est que la situation de l'emploi au Québec va beaucoup mieux. Et l'employé qui a un handicap pourrait avoir sa place dans le marché, mais il y a encore des obstacles. Entre autres, le manque de financement de programmes comme le contrat d'intégration au travail, qui fait que c'est une mesure d'Emploi Québec qui devrait être la mesure principale parce que ça finance les accommodements au milieu de travail. La majorité des régions au Québec ne peuvent pas faire des demandes initiaux. Donc, les personnes qui sont plus défavorisées, qui ont des besoins particuliers, qui sont aptes à travailler, même s'ils ont des contraintes, mm-hmm. reste à la maison sur l'aide sociale au lieu d'aller travailler.
Mmh. Quels sont vos principaux chevaux de bataille chez ROSEF?
Bien, actuellement, c'est sûr qu'on a une stratégie de personnes handicapées. La deuxième phase s'en vient au printemps, donc ça, c'est
au
pour
nous. Au printemps, vous dites
au printemps 2018.
2018.
Ouais. On a la première phase qui a lieu de 2008 à 2013. C'était une très belle stratégie. L'objectif, c'était de couper par 50 %. l'écart des taux d'emploi, que je vous disais, le 30%, ça n'a pas réussi, mais sauf qu'il y a eu des choses quand même qui sont bien, qui sont sorties de ça.
Qu'est-ce qui est sorti de ça, de façon positive?
Je vous dirais que les personnes handicapées, quand il y a une stratégie, le gouvernement est redevable. Et avant, une stratégie, c'est des bonnes volontés, mais avec une stratégie, le gouvernement devient redevable. Et ça, c'est important parce que là, on peut revenir avec des
Avez-vous un
objectifs.
exemple concret, un cas de figure pour illustrer
De quelle partie?
l'intervention de Rosève dans le fait qu'une personne en situation de handicap arrive à se trouver un
Ah,
emploi?
ben oui. Là, premièrement, juste pour vous donner une ordre de grandeur, on voit à peu près 6 000 personnes par année, puis il y en a 60 % à peu près. Là, notre taux de placement est à peu près
Ah,
60 %.
c'est quand
Donc,
même.
plus que la moitié du monde qui vient nous voir vont être intégrés en emploi. Mais nous, si on peut voir, et je vais vous donner un exemple très concret
Oui.
que j'ai. Mon cas, je vais prendre un cas avec lequel j'ai travaillé. Un monsieur qui était contraint d'hiver en emploi, en fin de compte, qui est absent du marché du travail depuis 10 ans, qu'on a réussi à intégrer en emploi et avec un petit peu de soutien et surtout certains accommodements pour qu'il puisse plus facilement gérer qu'est-ce qu'il a à gérer dans son milieu. Mais là, il est en emploi, puis il est en emploi depuis maintenant, ça fait 3 ans. Et il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Il fait juste rentrer au travail, il fait sa job. Et cet employeur-là, depuis qu'il a embauché monsieur en question, il a rappelé pour embaucher 2 autres personnes. Parce que la chose qu'on voit, c'est que le travailleur en situation de handicap, quand il intègre un milieu, ça incite l'employeur à embaucher d'autres
Ouais,
mondes.
l'essayer, c'est l'adopter, comme on
Ben,
dit.
c'est parce que c'est un. Look, c'est pas compliqué, là. Les entreprises ont un manque de main-d'œuvre. Donc, ils ont un problème et nous, on présente une solution à leur problème. On ne présente pas des personnes handicapées qui veulent travailler, on présente des travailleurs en situation de handicap et le travailleur assume toutes ses responsabilités, puis il est là à l'heure, puis il fait sa job, puis quand il est sur l'autobus, mais il chiale qu'il paye trop de taxes, mais il fait comme tout le monde, là, tu sais, la différence, c'est que malheureusement, ce n'est pas une réaction automatique, ah, je vais l'embaucher.
Non, il y a
On
des
voit
préjugés
quelques,
très
oui,
tenaces.
souvent, ben, ils ne seraient jamais capables de travailler ici parce que. Je dis n'importe quoi. La table est trop haute, mais on va abaisser la table.
Mais tout se
Tu
fait,
sais,
oui.
c'est pas si compliqué que ça, en autant qu'on comprend qu'on est avec des travailleurs qui ont des situations de handicap, mais c'est des travailleurs avant tout. C'est pas des services de réadaptation, c'est pas un acte de charité, c'est une solution à votre problème de main-d'œuvre.
Alors, est-ce que vous avez un site internet,
Le
monsieur?
Rosef a son site.
Oui.
On est 22 membres, ont leur site, on est dans toutes les régions. Il n'y a pas vraiment. En autant que la personne est une personne handicapée, naturellement, il y a accès à nos services. On est financé par Emploi-Québec,
Vous
donc
êtes situé où?
le Rosef comme tel, le bureau est sur la rue Jean-Talon, ici à Montréal, mais nos membres sont partout. Si quelqu'un a besoin d'un service, il a juste à appeler soit au Rosef direct ou il va sur le site du Rosef pour aller voir c'est quoi l'organisme dans sa région.
D'accord.
Et là, on va répondre à ses besoins.
Merci de votre visite, Joseph Giulione. Je
Très
l'ai
bien
dit
dit,
correctement.
merci.
Président du conseil d'administration du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, le ROSEF.
Merci beaucoup.
Maintenant, identification d'un gène impliqué dans les lésions cérébrales du prématuré, faire face. Des recherches menées internationalement ont permis d'identifier, dis-je bien, un gène potentiellement associé aux lésions cérébrales, en particulier celles induites lors d'une inflammation comme lors d'une naissance prématurée. Une avancée qui pourrait aboutir à des traitements pertinents des anomalies cérébrales. Lors de l'accouchement, un travail prématuré est associé chez la maman et ou le bébé à des phénomènes inflammatoires souvent liés à une infection. Une inflammation qui peut en retour causer des lésions cérébrales parfois si importantes qu'elles entraînent des séquelles à vie. Ainsi, environ 30% des bébés prématurés sont atteints de paralysie cérébrale, d'autisme ou de troubles comportementaux. Afin de mieux comprendre les mécanismes de ces réponses immunitaires invalidantes, une vaste étude collaborative a été menée. Trois équipes de recherche basées à Londres, Singapour et Paris ont travaillé de concert. Plus de 500 examens cérébraux de nouveau-nés prématurés ont fait l'objet d'une analyse génomique. En parallèle, des modèles expérimentaux d'inflammation ont été conduits chez l'animal, souris. Pour quel résultat? L'identification d'un gène appelé DLG4. En fait, ce gène n'est pas un inconnu. Présent dans des cellules du cerveau dites microgliales, il existe sous différentes formes chez tous les êtres humains. Jusqu'à maintenant, on lui prêtait surtout un rôle dans le fonctionnement des neurones. Or, les chercheurs viennent de mettre en évidence que DGL4 est exprimé différemment dans la microglie lorsqu'une réponse inflammatoire se produit dans le tissu cérébral, ce qui suggère fortement que le gène DLG4 est impliqué ou participe à l'inflammation du cerveau du prématuré. Une telle découverte démontre l'existence d'un mécanisme inédit dans l'apparition de lésions cérébrales du prématuré. Pour Pierre Gressens, le directeur de l'équipe de recherche française, en développant ce travail, une nouvelle voie pour étudier et comprendre comment cette inflammation et les dommages cérébraux ultérieurs sont causés est envisageable, avec comme objectif à terme d'aboutir à des traitements plus efficaces pour des maladies telles que l'autisme et la paralysie cérébrale, en arrêtant ou même en empêchant l'inflammation associée à la naissance prématurée. Et en rafale pour terminer, appel de participants, participantes pour entrevue. C'est une Sabrina qui fait cet appel. Je suis Sabrina et je suis étudiante à la maîtrise en architecture à McGill. Et pour mon projet final, je désire faire un bâtiment pour les personnes malvoyantes et aveugles. Sachez qu'il s'agit d'un sujet qui me touche particulièrement puisque ma mère est atteinte d'une rétinite pigmentaire très avancée. Afin de faire un projet bien adapté aux besoins de chacun, j'aimerais rencontrer quelques-uns d'entre vous. Cela se déroulerait sous forme d'entrevue ou témoignage selon vos désirs. Toute information ou anecdote reçue de votre part pourront m'aider dans la conception d'un projet bien réfléchi. Afin de bien documenter ma recherche, j'aimerais, si vous le voulez bien, enregistrer et ou filmer nos échanges. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais pouvoir rencontrer déjà quelques personnes dès le jeudi 14 septembre, puisque je devrais remettre une première ébauche de projet le 19 septembre. Les rencontres pourront se faire à l'endroit de votre choix et je pourrai m'adapter à votre horaire. Si vous souhaitez participer à ce projet ou pour plus d'informations, vous pouvez me contacter par courriel à sabrina.charbonneau@mail.mcgill.ca ou par téléphone 514-501-4396, 514-501-4396. Voilà, c'est tout pour les paractualités de ce mercredi 13 septembre 2017. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère vous retrouver demain. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et aussi merci à Sylvie Rivard à la recherche. Ici Hélène Denis. Bonne journée.